10 années hors normes, le podcast. À l'occasion des 10 ans d'hors normes, nous avons souhaité revenir sur des moments qui ont marqué la vie du magazine. Entre anecdotes et temps forts, Jean-Luc Fournier, le directeur de la rédaction, nous emmène dans les coulisses et revient sur ces 10 années hors normes. De retour avec Jean-Luc Fournier, directeur de la rédaction et fondateur d'hors normes, pour cet avant-dernier épisode. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Lisa.
Alors on va évoquer dans cet épisode un numéro marquant dans l'histoire d'hors normes, mais avant tout marquant dans notre histoire à tous et dans celle de Strasbourg. Alors nous sommes le 11 décembre 2018, c'est un mardi, et toute l'équipe quitte Strasbourg pour se rejoindre à Bar, à la table du 5, le restaurant de l'hôtel des 5 Terres. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, c'est une journée spéciale, bien entendu, dans Strasbourg, que Strasbourg n'oubliera jamais, et que nous avons vécu tous ensemble, alors que les moments où nous sommes tous ensemble, pour ceux qui ont écouté les précédents podcasts, savent qu'ils sont rares. C'est finalement une conférence de rédaction par trimestre, puisque chacun travaille de son côté. Mais ce soir-là, nous sommes invités par Patrick à fêter Noël, tout simplement, chez un de nos partenaires, l'hôtel-restaurant Les 5 Terres à Bar. Et Pour moi, la journée commence, d'ailleurs, ça mérite d'être signalé par quelque chose de tout à fait classique pour moi. Enfin, cette soirée commence, en tout cas, je suis à 17h à Kléber, parce que tout simplement, on reçoit avec François les amis Davet et Lhomme, les deux journalistes, Gérard Davet et Fabrice Lhomme du Monde, qui viennent pour un livre qui s'appelle « Inch'Allah, l'islamisation, un visage découvert », une enquête qu'ils ont réalisée avec des étudiants de journalisme à Trappes, dans la banlieue parisienne. Bon, on connaît bien Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ce sont des amis. Et ce qu'on ne sait pas, quand je les présente, et quand on parle du livre à partir de 17h à la librairie Kléber, c'est que dans les 250 personnes qui sont devant nous, il y a Pascal Verden, que je ne connais pas. Et c'est normal parce qu'il ne vient pas depuis très longtemps à la librairie Kléber écouter les auteurs, puisqu'il vient juste d'être retraité, cadre bancaire retraité, il a 61 ans. Et il commence sa retraite, et donc ça fait, on le saura plus tard, ça fait déjà quelques fois qu'il vient à la librairie Kléber. Grand amateur, on l'a su par son épouse des enquêtes de Gérard et Fabrice dans le journal Le Monde. Il est venu les écouter, ça on ne le sait pas, je ne le connais pas. Et à ce moment-là précis, et quand moi je quitte assez vite, après l'interview, je quitte assez vite la librairie parce que j'ai rendez-vous à 18h30, je me rappelle, avec Nicolas Rosès, dont on a parlé dans un précédent poste, un de nos photographes, et qui habite vers les ponts couverts. Et donc, à 18h et quelques brouettes, quand je quitte la librairie pour rejoindre ce rendez-vous, pour aller ensuite à ce repas, ce dîner, je passe tout simplement par la rue Sainte-Hélène, par le parcours habituel, complètement banal, évidemment, rue Sainte-Hélène, les ruelles de la Petite France, le pont Saint-Martin, pour déboucher vers la place Henri Dunant, où habite Nicolas, et là où il m'attend. Évidemment, le parcours que le terroriste prendra 2 heures plus tard et où il sèmera la mort, mais on va y revenir. Et ça, je ne l'apprends que le lendemain, bien entendu. Je me rends compte de ça le lendemain. On est tous réunis au 5 Terres, tous ensemble. On est une bonne petite 18 ou 20, je crois. Il y a les photographes aussi qui sont avec nous ce soir-là. Je me rappelle de cette soirée, elle avait commencé d'une façon très sympathique, parce qu'évidemment, quand on déboule une table comme ça, de journalistes, de photographes, de gens de presse, pour leur pas de Noël de la boîte...
Qui se retrouvent surtout, parce que comme tu l'as dit, on se croise pas forcément beaucoup, donc c'était un vrai soir de fête pour nous.
C'est un vrai soir de fête, on est très bruyants, et moi j'ai encore le souvenir, il y avait quelques personnes dans ce très beau restaurant des 5 Terres à Bar, et il y avait manifestement un couple d'amoureux, légitime ou pas, je ne sais pas, qui était là et à qui on avait gâché le début de soirée, à mon avis, parce que s'ils avaient voulu passer une soirée romantique aux chandelles et dans un silence remarquable, c'était raté, je me rappelle très bien de ça. L'apéro se déroule, les gens n'avaient pas encore servi le premier plat. Et c'est Véronique Leblanc qui, la première, je m'en souviens très bien, voit sur son smartphone une alerte de l'AFP, et je l'entends sa voix me dire, en me regardant dans les yeux, il s'est passé quelque chose de grave à Strasbourg. C'est les mots très précis qu'elle a prononcés, on n'en savait pas beaucoup, elle non plus. Immédiatement, on s'est tous précipités sur nos smartphones.
Et l'info venait à peine d'être diffusée, en fait. Elle l'avait eu vraiment...
Elle a eu la dépêche, la toute première dépêche AFP. Donc, on était à plus de 10 minutes après, qu'on a su après.
Une tablée de journalistes ce soir-là.
Voilà. Et on a tous regardé nos smartphones et peu à peu, les infos ont commencé à se constituer, à tomber les unes après les autres. Un silence de cathédrale C'est fait dans notre, ouais. Dans notre table.
Bah, ou comme beaucoup, chacun se demandait, pensait à ses proches.
Voilà.
Où sont-ils? On essayait déjà d'appeler. Peu étaient déjà au courant.
Et je me souviens avoir expliqué à ce serveur qui venait servir l'entrée à ce moment-là, qui était complètement ahuri parce que lui avait vu aussi et entendu surtout le joyeux bordel que nous formions quelques minutes auparavant et qui soudain nous voyait scotchés. Alors je lui ai dit, à ce moment-là, on est des journalistes d'une agence de presse, il s'est passé quelque chose de grave à Strasbourg, excusez-nous. Les gens ont entendu, les mêmes gens qu'on gênait sans doute 20 minutes avant, eux-mêmes se sont mis sur leur smartphone, ce qui fait qu'il y a eu ce spectacle hallucinant dans ce restaurant complètement silencieux. Tout le monde branché sur son rivet à son smartphone, et évidemment, les uns après les autres, nous sommes sortis chacun notre tour, ou je ne sais plus très bien, mais en tout cas pour prendre des nouvelles de nos proches. Hein, je pense que chacun d'entre nous avait cette priorité-là de savoir si nos proches étaient en sécurité. On a pris conscience très vite de la gravité de ce qui se passait, de ce qui s'était passé, du fait que le terroriste courait toujours, etc. Et puis on a accéléré le repas. Et
ouais, comme vous en doutez, on se rappelle plus très bien de ce qu'on a mangé.
Non, pas
ça,
du
c'est
tout.
Sûr. Alors, c'est vrai que le repas a été écourté. Et puis après, la question c'était,
il
faut rentrer à Strasbourg.
Il faut rentrer.
Mais comment? Le centre-ville est bouclé. La plupart y habitent.
Donc, on a dit, on écoutait la radio, quoi, bien entendu. Et on a tous pris nos voitures. On s'est séparés à ce moment-là. Je suis rentré avec Nicolas et à l'arrière il y avait Thierry Jobard. Qui, avec l'intention de ramener Thierry Jobard dans le quartier de la Place de la Bourse, où il habite. Et très très vite, en écoutant notamment France Info, qui faisait du non-stop là-dessus, on a compris que tout le centre-ville de Strasbourg était évidemment bouclé, on a compris que le ou les terroristes, on ne savait pas encore très bien à cette heure-là, couraient toujours... qu'ils étaient coincés dans le secteur de la rue d'Épinal, vers l'avenue du Douc. Bref, c'était très confus, évidemment.
Mais au-delà, après, voilà, forcément, vous le vivez aussi en tant qu'homme, mais là, il y a aussi, se pose la question de votre travail en tant que journaliste, en tant que photographe. Dans quel état d'esprit on est ce soir-là? Qu'est-ce qu'on fait?
Tout de suite, je dis à Nicolas, Nicolas me dit, bon, écoute, je vous dépose tous les deux. Et moi, je rentre chez moi, je prends tout mon matos et je suis tout ça. Je me rappelle avoir mis en garde Nicolas, parce que on n'est pas un média chaud hors norme, c'est-à-dire qu'on n'avait, nous, rien à publier le lendemain, ni même le surlendemain.
On n'est pas un média, même ce soir-là, nous, on n'a pas voulu réagir, contrairement à d'autres qui ont des fois lancé des informations qui n'étaient pas toujours justes et vérifiées.
On aurait pu le faire
chacun
sur
son
le
métier.
Net. On aurait pu le faire sur le net, mais on n'est pas un média chaud. J'ai dit à Nicolas, attention, c'est du sérieux, là, c'était évident. Tu ne prends aucun risque, et même si tu restes chez toi ce soir, je suis pas fâché, quoi. Et bon, je me rappelle quand même qu'on est sorti de l'autoroute bloquée, on est sorti à la sortie Meno, à la sortie Baggersee, parce qu'on savait que l'autoroute, par la radio, puis tous les panneaux l'indiquaient aussi lumineux sur l'autoroute, que l'autoroute était barrée à la hauteur, de Strasbourg Centre, l'Elzo, là où s'allonge l'avenue du Doubs, où le terroriste était présumé se planquer dans le coin.
Et alors, à quoi elle ressemble, la nuit de Nicolas? Parce que j'imagine qu'il te l'a raconté ce soir-là.
À quoi elle ressemble
cette nuit pour Nicolas?
Après un gymkhana dans les rues du Neudorf, puisqu'il a fallu se dévier très vite, parce que là aussi, l'avenue de Colmar était barrée à la hauteur de, grosso modo, du stade et de la Méno. Et donc, il a fallu faire un gymkhana dans les rues du Neudorf. Je ne sais pas encore comment on a fait. On a évité tous les barrages, etc. C'était assez pointu pour pouvoir déboucher quelque part, pour déposer Thierry au plus près de chez lui, parce qu'il y avait aussi le sentiment la volonté de le déposer très près de chez lui, parce que la sécurité, on rigole pas avec ça quand même. Je sais pas trop comment on a fait. On s'est retrouvé avenue Jean Jaurès, puis on a pris la place de l'Étoile pour aller au centre-ville, qui était libre. Alors, l'autre côté était complètement barré, ce côté était libre. Et là, on a déposé tout de suite Thierry. Et quand Nicolas me ramenait par le quai Pasteur, etc., là j'ai vu que c'était le gros bordel. C'était un gymkhana de voitures de police, sirènes hurlantes dans tous les sens. Et là j'ai compris que le terroriste n'était pas logé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas précisément où il était. C'était un moment de grande panique. Ça allait dans tous les sens. C'était ahurissant. Et là j'ai dit à Nicolas, surtout, s'il te plaît, reste chez toi ce soir, etc. Il m'a déposé chez moi. J'habite dans le quartier des Halles. Alors, bien entendu, il n'a pas du tout écouté ce que j'ai dit. Il est rentré chez lui, il a pris tout son matos. Et pour Nicolas, c'est un marathon de 48 heures qui a commencé, où il a très peu dormi. Le lendemain, je l'ai eu au téléphone très tôt le matin, et je le suivais pas à pas. Lui aussi m'appelait, parce que quelque part, je pense que ça le rassurait aussi dans tout ce truc. Bref, on a suivi tout ça. Le lendemain, nous, on a appris les détails de ce qui s'était passé la veille. On savait qu'il y avait un terroriste, qu'il était non localisé. Certains prétendaient qu'il était passé en Allemagne du côté d'Offenbourg, où il avait déjà eu des difficultés là-bas de l'autre côté que la police allemande. On ne savait rien. Il y avait une grande terreur, hein, finalement, qui régnait à Strasbourg. Et on a donc appris tout ce qu'on sait depuis, et notamment donc Pascal Verdun, que je citais tout à l'heure, qui a écouté les gens à Kléber, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, qui a fait la queue pour les dédicaces. Moi, j'étais déjà parti à ce moment-là, et qui est ensuite allé à la Stoub voisine, qui a trouvé la mort devant la Stoub. Il avait 61 ans, Anupong Suem Samarn, c'était la personne d'origine thaïlandaise, je crois, qui a trouvé la mort Pont Saint-Martin, donc partout là où j'étais passé, comme je le disais, puis bien entendu Bartek, son collègue italien, Kamal Narbrand, qui était le garagiste de la Méno, pardon, qui a trouvé la mort devant le magasin Adidas rue des Arcades. Bref, on a appris tout ce qui s'est passé. Le trauma était au maximum. Et puis, à un autre niveau d'hors norme, moi, j'ai surtout suivi Nicolas et veillé à ce qu'il ne fasse pas ce bêtise, parce que c'est un vrai téméraire. Hein. On parlait de sa mentalité de photographe de presse. Là, ça faisait un petit moment déjà qu'il l'était. Et là, Nicolas était fou furieux, cette histoire. Il voulait tout, quoi. Et donc, il a pris des milliers de photos. Il a participé à des dizaines de conférences de presse officielles. Il était sur le terrain quand il a compris que le terroriste se planquait plus ou moins du côté de la Méno, dans ces eaux-là. Il n'a pas arrêté de tourner en permanence, se mettant même quelquefois sans doute en danger. Il m'en parlait régulièrement au téléphone. Moi, j'étais fou parce que je me disais, mais bon... Après, on n'empêche plus, il faisait son boulot, quoi. Il s'est réalisé quelque part.
Même temps, c'est grâce à ça qu'il a pu nouer des relations assez étroites sur le terrain,
oui.
Qui en fait serviront de matière pour le numéro, alors c'est le numéro 32, qui s'appelle Toujours.
Oui. Alors, tout s'est arrêté dans les conditions que l'on connaît, le terroriste s'était abattu, on est tous partis en vacances de Noël, tous traumatisés par ce qui s'était passé. Et c'est à la rentrée... très très vite qu'on s'est posé le problème de savoir comment on allait traiter ce... Nous, on était On était au tout début du processus, hein, c'est-à-dire que notre numéro de 31 venait de sortir quand les événements se sont passés.
Que tu savais que tu voulais faire quelque chose.
Oui.
Mais c'est comment traiter cette info,
ouais.
Comment rendre hommage, comment informer en même temps. Enfin, j'imagine que les questions, elles sont multiples.
Alors justement, tu entrevoyais ça tout à l'heure, comment informer là-dessus, si c'est pour faire de la redite de ce qu'ont fait les autres, et c'est quasiment normal quand on fait ça à 2 mois d'intervalle, moi ça me paraissait pas la peine du tout, quoi. Donc je m'étais dit dans un premier temps qu'on allait rendre hommage à ceux qui sont tombés, aux blessés, et très, très succinctement, 2-3 pages, quoi, un hommage sans flonflon, etc., c'était, voilà... Et puis c'est Nicolas Rosès qui revient dès les premiers jours de janvier et que je revois, je me rappelle, on se voit plusieurs fois au restaurant, on boit du café, il me raconte tout ce qu'il a vécu. Et là, je perçois qu'il a fait un travail fantastique, quoi, qu'il a été au cœur des événements. Il en parle encore avec une grande émotion dans la voix. Puis aussi le fait que c'est son premier gros coup, et quel gros coup, quoi. Enfin, on s'en serait tous bien passé, bien évidemment. Mais Nicolas finit par me dire... Je m'ouvre, Nicolas. Je dis, la façon dont on va traiter ça, on va utiliser 2-3 de tes photos, bien entendu, mais on va pas en faire des tonnes parce que ça sera passé. Et là, il me dit, mais attends, j'ai noué des relations exceptionnelles avec les policiers, avec Jean-François Hilly notamment, qui était le directeur départemental de la police et qui a mené les opérations, conjointement avec toutes les polices nationales, bien entendu, antiterroristes et tout. Et j'ai de bonnes relations avec lui. En fait, on est parti dans l'idée, il m'a dit, moi je suis quasiment convaincu qu'on va pouvoir interviewer les 3 policiers locaux, régionaux, enfin locaux, qui étaient vraiment des gens, des policiers de Strasbourg qui ont abattu le terroriste, quoi, sous le pont là-bas vers le stade de la Méno. Et je me fais fort de savoir qui c'est. On peut peut-être essayer de les interviewer. Donc Et pour ça, il a activé ses réseaux, dont Jean-François Hilly, le chef de la police, qui a tout de suite fait comprendre que ce serait pas possible parce qu'il avait donné sa parole. Et c'était sage, évidemment, parce que ce sont des locaux et on imagine les sollicitations et même la mise en danger qui aurait été la leur si c'était révélé.
Mais lui accepte une interview.
Et finalement, Nicolas, de fil en aiguille, arrive à me dire, je me fais fort d'obtenir pour toi une interview de Jean-François Hilly. Et on part de là. Puis écoute, ça, ça serait bien, parce que c'est vraiment le personnage central, quoi. Je veux dire, il est là au cœur de tout, hein. Et d'ailleurs, à quel point, puisque quand on fera cette interview, on s'apercevra effectivement qu'il était au cœur de tout. Nicolas, par le respect qu'il a su manifester durant ces journées-là, je pense qu'il y a encore dans sa tête ce photographe qui est partout et très respectueux, qui ne cherche pas à faire le cow-boy ou le... Voilà. Et donc, il accepte le principe de l'interview. Il se renseigne un peu. On saura plus tard, quand son épouse lit hors norme, qu'il connaît le magazine, mais il ne l'a jamais lu, mais il le voit traîner sur la table du salon. Et il accepte ce principe-là. Et je me rappelle très bien de cette interview où il avait évidemment demandé l'autorisation au ministère de l'Intérieur avant, ça c'est évident, ça se passe toujours comme ça. Et le jour de l'interview, que Nicolas est là avec moi, il fait les photos dans le bureau de Illy, il y a son officier qui est chargé de la communication et qui est là en permanence assis et qui le reprendra deux ou trois fois. Ils ont doublé la position pour pas qu'il y ait des mots.
Oui, il le reprend sur quoi, par exemple?
Bah,
qu'est-ce qu'il faut pas dire dans ces moments-là?
Bah, c'est très vite fait. Bon, on peut en parler maintenant, ça n'a pas grande importance, mais.
De dévoiler quoi? Des infos sensibles? On sait que, des noms?
On sait que dans l'équipage, comme c'est le mot juste qui a neutralisé, tué, abattu le terroriste, on a entendu dire à un moment donné, elle l'a eu vraiment bien, quoi. Donc on déduit qu'évidemment s'il y a une femme, et dans un équipage, quand on déduit qu'il y a une femme, c'est un petit bout de travail pour un journaliste. Hein. On peut trouver comme ça. Donc tout de suite, l'officier nous a dit, si vous voulez bien, vous dites pas elle. Monsieur Illy a dit bon, voilà. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est normal. Moi, ça m'a pas choqué du tout. Hein. Autant en temps ordinaire, je suis très sourcilleux sur les choses. Une fois dites, elles sont dites, quoi. Je veux dire, on peut cacher des choses.
Là, c'était quand même un contexte plus que spécial et un respect à avoir.
Tout à fait. Donc, on fait cette grande interview qui est exclusive. Hein. Jamais Illy ne s'est exprimé aussi complètement et aussi aussi complètement. Il a refait tout le film. C'est hallucinant. On l'a publié de A à Z dans Hors Normes. Il suffit de relire. C'est une interview qui a duré 2h30 et qui est là aussi étonnante. Et puis ensuite, toujours de la même façon, Nicolas me dit, voilà, il y a la maman de Bartek. Alors tout le monde se souvient de Bartek, hein, qui est une des victimes, ce garçon incroyable, hein, qui était là au mauvais moment, et un garçon d'une générosité folle que beaucoup de gens connaissaient. On le connaissait un petit peu, moi je le connaissais via les bibliothèques idéales surtout, voilà. Et la maman de Bartek, Dorota, Nicolas avait noué une relation assez particulière avec elle. Il lui avait demandé respectueusement de la prendre en photo, elle avait accepté, et peut-être s'est-elle rendu compte qu'elle avait affaire à quelqu'un de correct, qui était tout sauf un paparazzi, quoi. Et il avait une bonne relation avec elle. Je peux t'obtenir l'interview de la maman de Bartek. Donc très bien.
Bartek était à ce moment-là où encore entre la vie et la mort.
Non, il était déjà, décédé. Là, je parle, on est déjà le 15 janvier dans ces eaux-là. Hein. Et l'interview se fait, pour l'anecdote, elle se fait dans l'appartement qu'occupait Bartek à la Cruteneau. Et c'est encore un moment incroyable parce que on passe durant cette longue interview, cette femme passe devant nous par tous les états. Il faut respecter ses larmes, mais elle se confie, elle a confiance et on fait là encore un pas de plus dans ce qu'allait devenir ce numéro. Mais le comment dire, parce que le hasard n'existe pas une nouvelle fois, on est un peu sec à ce moment-là. Enfin, on a l'interview d'Illy, on a la maman de Bartek, donc on a de quoi faire déjà un numéro, mais il nous manque des choses. Et notamment, on se pose beaucoup de questions, Nicolas le premier, sur l'identité de ce courageux témoin qui, rue Sainte-Hélène, devant les savants d'Hélène, le bar... a essayé de neutraliser à main nue le terroriste qui fuyait, qui a reçu 14 coups de couteau, ça on le sait, qui est paraplégique à cause de ça, qui a été longtemps dans la vie et la mort, et on sait qu'il a survécu, et on s'était dit que ça serait bien de le retrouver, mais il y a un barrage autour de tout ça, et c'est bien normal d'ailleurs, hein, et on n'est pas non plus, nous... à la recherche de l'exclusif à tout prix, le respect humain avant toute chose. Et finalement, on est prêt de renoncer, et puis arrive un coup incroyable. Alors là encore, je ne peux pas donner l'identité aujourd'hui, mais l'épouse d'un de nos partenaires, l'épouse d'un de nos annonceurs, contacte Patrick, et lui explique que ce garçon, elle ne savait même pas qu'on était à sa recherche d'ailleurs, lui explique que ce garçon, en fait, est un jeune musicien qui vit sa passion de la musique et qui, pour gagner un petit peu d'argent, fait la babysitter et que c'est la babysitter de ses enfants. Donc elle le connaît bien. Elle est depuis ces événements tous les jours à l'hôpital, puis ensuite dans l'appartement qu'il occupait. Elle le suit particulièrement. Et c'est elle qui va le convaincre peu à peu de s'exprimer dans Hors-Normes. Ce sera sa seule interview. Et personne ne sait qui c'est à l'époque. Et donc, on arrive à monter cette interview-là. Et ça, c'est encore un des grands moments.
Et alors, tu le rencontres à l'Atlantico avec Patrick et Nicolas.
Oui. Pour une interview que je pense tout le monde redoute, parce qu'on sait qu'on va avoir devant nous un garçon encore sous le choc, évidemment. On est trois semaines ou un mois à peine après l'événement, là. On sait qu'il a été longtemps entre la vie et la mort. On sait qu'il se déplace très difficilement parce que la moelle épinière a été touchée par le 13e coup de couteau.
Et tu sais surtout qu'il n'a pas pris la parole et que c'est donc peut-être la première fois qu'il va vraiment raconter son histoire.
Voilà. Et pourquoi on fait ça à l'Atlantico? C'est tout simplement il a déménagé depuis l'événement parce qu'il habitait un étage et la même personne qui nous a mis en contact avec lui l'a aidé à trouver un appartement de plein pied pour pouvoir vivre normalement sans trop de difficultés. C'est tout près de chez lui, donc l'Atlantico n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire une interview, mais on choisit un milieu d'après-midi de semaine calme, il n'y a pas beaucoup de gens, et là on voit arriver Damien. Damien qui arrive, à notre grande surprise, il arrive avec une jeune femme qui se révèle être sa compagne. Elle s'appelle Rosanna. Et Damien, lui, c'est un grand escogriffe. Il nous fait penser à un lutin géant. Il est très amaigri, il est très barbu, bien entendu, il a son bonnet. On le voit arriver avec sa béquille, il se déplace difficilement avec cette jeune femme au bras et on s'apercevra qu'il nous dira, moi, je tiens absolument à ce que Rosanna, c'est ma compagne. C'est mon amoureuse, elle m'a tellement aidé durant tous ces événements qu'on fait l'interview à deux ou on ne la fait pas. Bien entendu, on accepte, c'est humain. Et là, on va vivre un moment incroyable où ce garçon, très tendu au départ, parvient à se décontracter peu à peu. Il sait qu'on n'est pas des fouilles merdes, comme on dit dans le métier de journaliste. Il sait que sa parole sera respectée. Il est tout à fait en confiance, sinon il ne serait pas venu. Il nous le dira à plusieurs reprises. Et il nous livre son témoignage.
Donc un numéro forcément marquant, des pages marquantes, une couverture aussi qui se distingue de ce qu'on faisait avant. On pense à cette petite cathédrale, je crois, qui avait été réalisée au Fab Lab, réalisée par nos amis de chez Isaac. Oui. Couverture très marquante, bleue et rouge.
Voilà, cette couverture très sobre, la petite cathédrale, le petit objet avec le cœur, toujours, Strasbourg toujours bien entendu. Et la petite mention 11 décembre 2018, nous n'oublierons jamais. On a réussi à faire ce numéro. Moi, j'en suis incroyablement fier de ce numéro. Et je dois dire que, je suis absolument persuadé que 4 ou 5 ans auparavant, on n'aurait pas fait du tout ce numéro comme ça, même en ayant les mêmes opportunités. Et d'ailleurs, peut-être tant, on ne les aurait carrément pas eues parce qu'à l'époque, on travaillait avec un ou deux photographes. Voilà.
Oui, c'est un vrai travail d'équipe, au final.
C'est un formidable travail d'équipe qu'on a dû mener en partie, d'ailleurs, en gardant, si ce n'est le secret, du moins une très grande confidentialité, parce que quand vous tenez quelqu'un comme Damien, vous n'avez pas trop envie de bavarder. Et, on est tous les mêmes, on n'a pas trop envie de voir les collègues. Nous, on est un trimestriel, d'autres n'ont pas cette parution-là. Et s'il avait été paru dans un autre numéro avant, ça nous aurait quelque part... Un peu froissé, mais sans plus, parce qu'il a bien le droit de témoigner là où il veut aussi, ce garçon. Mais bref, on a fait un vrai travail de pro, quoi, un vrai travail de journaliste. Et là, pour une fois, quand on disait, on a toujours dit qu'on était un journal de journalistes, on l'avait déjà prouvé maintes fois, mais là, cette fois-ci, on a gagné en quelque sorte nos galons, quoi, en quelque sorte. Là.
Et justement, ce souvenir aura marqué nos mémoires, et je pense même dans notre chair, personnellement, même dans notre rapport à notre ville, à Strasbourg. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire, en tant que journaliste, vraiment, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Enfin, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est juste un souvenir qui reste très marquant?
Sincèrement, j'ai J'ai pris ces événements et ce travail ensuite avec le sang-froid qui convient. Quoi. Je pense que ça, c'est la première qualité qu'on doit avoir, du moins quand on dirige une rédaction, c'est d'avoir le sang-froid que n'ont pas forcément les autres sur le terrain, parce qu'ils sont dans l'action. Moi, je sais que Nicolas m'a proposé des choses pendant la cavale, hein, pendant la cavale du terrorisme. Il m'a proposé, il aurait pu le faire, on aurait pu le faire. L'interview du ministre de l'Intérieur qui était très souvent présent ici, etc. Il avait déjà des entrées. On aurait pu faire. J'ai dit non parce que ça n'apportait rien. D'abord, comme je l'ai dit, on n'est pas un média de l'immédiat. Il fallait travailler à long terme. Et puis, il faut garder son sang-froid. Donc, j'ai réussi à le faire et puis à le communiquer à d'autres qui étaient sur ce dossier-là aussi.
La seule chose qu'on a faite quelques jours après l'événement, c'était l'interview, on en a parlé, d'Abdeslam Irdas. Tu t'en rappelles en vidéo.
Il y a deux moments, oui, effectivement, parce qu'il y a deux moments que je garde en mémoire qui ne sont pas des moments médiatiques, mais qui sont des moments qui prouvent qu'on a une vraie agence de presse et qu'on travaille vraiment dans la logique des journalistes. Effectivement, comme tous les autres, mais dès le lendemain, je suis surpris par les unes que je vois, hein, Libé, les journaux français, mais aussi les journaux européens via le net, etc. Le monde entier a couvert l'événement, bien entendu. Et je remarque tout de suite qu'il y a un photographe qui s'est fait remarquer, c'est Abdeslam Irdas, que je ne connais ni d'Ève, ni d'Adam, même le nom ne me dit rien à l'époque.
Ah oui, on l'a raconté justement quand on évoquait les contributeurs.
Il était assez facile de le loger, comme on dit, c'est-à-dire de trouver ses coordonnées. Et Abdeslam est un jeune photographe avec lequel on collabore régulièrement, qui est devenu nos amis maintenant, mais à l'époque on ne le connaît pas, et lui c'était aussi quelque part pour lui quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il est connu surtout par le directeur du bureau de l'AFP à Strasbourg de l'époque, et qui entend dire, parmi les premiers, qu'il y a eu un attentat dans le secteur de la cathédrale rue des Orfèvres, immédiatement il appelle Abdeslam, parce qu'il sait qu'il habite le long de la cathédrale et qu'il est au plus près. Et donc Abdeslam est là, il fait des photos géniales, il a des parutions, je crois qu'il a fait 40 publications dans le monde entier, on l'a interviewé, on l'a retrouvé, on l'a interviewé, il communique son témoignage. Puis la deuxième chose que je voulais dire, on s'arrêtera là-dessus, c'est que si je parlais tout à l'heure de Gérard Davet, Fabrice Lhomme, c'est pour vous dire que voilà, à chaque fois qu'ils viennent à Strasbourg, Gérard et Fabrice repartent avec Ornom, ils le connaissent. Hein. Quelquefois même, je leur envoie ou ils le regardent par le net. Et là, ils m'ont tout de suite appelé, là, quelques mois plus tard, en disant « Écoute, si tu as ton numéro dont tu nous as parlé, merci de nous l'envoyer. » Voilà, bon, je leur ai envoyé le numéro, on a échangé ensuite là-dessus, etc. Tout à fait. Et 9 mois plus tard, ils sont revenus pour un autre livre. Alors, je me souviens, comme ils en font à peu près un tous les années et demie, je me souviens plus du titre, je les ai interviewés. Et je peux le dire aujourd'hui, mais très discrètement, ils me l'ont dit dans le creux de l'oreille, évidemment, ils ne s'en sont pas vantés. Ce jour-là, ils se sont débrouillés pour trouver l'adresse de la veuve de ce monsieur qui était venu les voir, de Pascal Verden, qui était venu les voir et ils sont allés rendre visite à la veuve un an plus tard. Parce qu'ils savaient juste que Gérard était là pour les voir, un anonyme, dont ils n'ont jamais croisé le regard, mais ils sont tenus à faire ce petit geste envers sa veuve. Et ça montre que, les journalistes qui sont très critiqués, tellement critiqués, font quelquefois bien le boulot, et quelquefois sont des gentlemen de première.
Merci Jean-Luc d'être venu avec nous sur ces souvenirs douloureux, marquant, mais important aussi. Et le numéro peut toujours être consulté en ligne, donc on vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.
Avec plaisir.